Bonjour, je suis très contente de pouvoir participer à cette suite de débats et en fait je vais effectivement tirer parti de la publication de ces deux livres, La science asservie, santé publique, les collusions mortifères entre industriels et chercheurs, et puis donc qui est un livre que j'ai écrit seul, et je vais vous en raconter un petit peu l'histoire, et puis un livre collectif dont Alain vous a déjà parlé, Les risques du travail pour ne pas perdre sa vie à la gagner, qui est un livre qui rassemble une centaine d'auteurs. Et en fait j'ai choisi de parler de ces deux livres, bien sûr au contenu, pas seulement parce que j'ai contribué à leur publication. Je suis chercheur en santé publique et depuis 30 ans je travaille sur les problèmes de risque du travail, en particulier les risques associés à l'exposition à des produits toxiques et la manière, parce que je suis sociologue, la manière dont l'organisation du travail fait porter sur certaines catégories de salariés l'exposition à ces cancérogènes, à ces produits toxiques beaucoup plus largement que les cancérogènes. Alors, la science asservie, en fait, l'acte fondateur finalement de ce livre remonte à 1986, quand, avec Henri Pezra, qui était toxicologue, chercheur au CNRS, spécialiste de la toxicité, notamment des fibres d'amiante, nous avons ensemble écrit un article qui s'appelait « La recherche captive ». Nous étions l'un et l'autre, à l'époque, nouveaux dans ce champ de recherche. C'est-à-dire que la sociologie du travail existait depuis longtemps, la sociologie de la santé aussi, mais il y avait très peu de travaux en sociologie de la santé au travail. Et puis, du côté de la toxicologie, Henri était physico-chimiste et il y avait très peu de recherches portant sur, en fait, l'application de la physico-chimie à la toxicité des fibres minérales. Et nous découvrons, au hasard d'un certain nombre de réunions, de séminaires scientifiques et surtout de publications, ce que donc nous avons appelé la recherche captive, c'est-à-dire captive des industriels. Nous découvrons à notre grande surprise à ce moment-là que la recherche pratiquement est complètement dominée par l'accord ou le refus des industriels de voir une recherche se faire sur un produit toxique dans leur entreprise, et puis surtout sur la manière dont se fait la recherche. D'où ce premier papier qui montrait que, en fait, la recherche épidémiologique était entre les mains, finalement, de chercheurs qui acceptaient de se mettre eux-mêmes au service des industriels. Alors, pas de façon forcément immédiate et ouverte, mais quand même. Comme nous étions l'un et l'autre militants et conscients des rapports de domination, on n'était pas complètement étonnés. Mais, et puis nous avions tout à fait conscience de plusieurs choses, notamment la violence faite aux militants ouvriers dès lors qu'ils commençaient à défendre la santé. Ça, on y était confrontés tout de suite. Mais nous ne pouvions pas imaginer l'extraordinaire confiscation du savoir sur les risques industriels par ceux-là même qui en tirent profit. Et je dirais que tout au long de nos 30 ans de carrière, à l'un et à l'autre, nous nous sommes rendus compte à quel point, en fait, la recherche était façonnée par cette domination des industriels, avec notamment quelque chose dont vous avez déjà certainement entendu parler, la mise en place de stratégies de doute systématique de de la toxicité, de l'amiante, du plomb, des rayonnements ionisants, de la chimie, etc. Ces stratégies étant beaucoup plus... Alors, c'est les stratégies des industriels, mais ces stratégies sont devenues ce qu'en science on appelle un paradigme, c'est-à-dire le système de référence de la production de connaissances sur les risques toxiques. Et nous avons été confrontés à la difficulté de remettre en cause ce doute systématique là où on a des connaissances et des connaissances indubitables. L'amiante, la radioactivité, la chimie donnent le cancer, le plomb aussi. Les pesticides sont des neurotoxiques connus. Et en fait, ce paradigme du doute a permis aux industriels d'imposer ce que j'appelle l'expérimentation humaine, c'est-à-dire imposer qu'il y ait des données épidémiologiques dites suffisantes, et elles ne le sont jamais, pour affirmer qu'un toxique est toxique, même si les connaissances remontent même à l'Antiquité. Donc le livre retrace, brièvement, hein, parce que j'ai abordé dans les 300 pages l'histoire de cette confiscation du savoir par les industriels pour le plomb, les rayonnements ionisants, l'amiante et la chimie, en particulier les pesticides. Alors, je voudrais juste donner deux exemples de quelque chose qui fait la deuxième partie du livre et qui est comment est-ce qu'on lutte contre ce paradigme du doute. Parce que finalement, notre travail avec Henri, qui est décédé en 2009, notre travail avait pour objectif de montrer des alternatives à ces rapports de domination au sein même de l'institution scientifique. Alors, si je reprends l'histoire de l'amiante très brièvement en France, je vous recommande un livre qui a été republié, dont vous avez peut-être entendu parler, bien sûr. Les plus anciens le connaissent. C'est « Danger amiante », qui est le travail du collectif intersyndical sécurité des universités Jussieu en 77, et qui, dès 77, montre l'ensemble des dégâts que l'amiante est en train de faire. L'amiante, c'est le savoir sur les effets toxiques de l'amiante sont pratiquement acquis en 1930, mais se sont échelonnés depuis l'Antiquité, le 19e siècle et les 30 premières années du 20e siècle. Et à partir de 1930, les industriels savent tout. Il faut attendre les années 60 pour qu'un chercheur américain, un médecin, mette en évidence sur la place publique la cancérogénicité de l'amiante, que les industriels connaissent depuis très très longtemps. Et là, il y a une bagarre qui s'instaure entre des scientifiques indépendants de l'industrie et les industriels, pour qu'on arrive enfin à affirmer que l'amiante est dangereux. En France, il faut attendre la fin des années 70 avec Jussieu. Donc Henri a déménagé, son labo a déménagé de la Sorbonne à Jussieu en 71. Et Jussieu est le bâtiment le plus amianté à l'époque de toute l'Europe, avec des flocages partout, avec du calorifugage, des faux plafonds, enfin bon. Il va y avoir un mouvement intersyndical des travailleurs scientifiques qui amène même à faire fermer l'université pour obtenir que des mesures soient prises. Mais surtout, ces travailleurs scientifiques, ces syndicalistes, ont conscience que si à Jussieu il se passe une chose pareille, alors qu'en est-il des ouvriers dans les entreprises, notamment de transformation de l'amiante? Et c'est comme ça qu'il y aura la connexion entre Jussieu, et je raconte un peu dans le détail, entre Jussieu et les ouvrières de l'usine Amisol à Clermont-Ferrand. Mais du point de vue de la recherche, Henri, en fait, se pose alors des questions sur sa pratique de recherche, en se disant, c'est pas possible que je passe à côté de propriétés, alors que je suis en train de travailler sur les propriétés des argiles, des fibres, etc., et que je porte aucune attention aux propriétés toxiques. Et il va changer de sujet de recherche, et donc à partir du début des années 80, il sera, lui et ses collègues seront la première équipe à mettre en évidence quels sont les mécanismes de toxicité des fibres d'amiante. Donc là, je dirais que ce qui est très très important à retenir, c'est la manière dont ce problème de pollution, mais aussi le travail fait par les militants issus des syndicats des travailleurs scientifiques et les militants ouvriers, qui vont conduire un scientifique à se dire le plus urgent, c'est que j'arrive à comprendre ce qui se passe et qu'il y ait la prévention. Je dirais que au début des années 80, on sortait quand même d'une période où le problème des conditions de travail était relativement dans l'espace public. Nous étions un certain nombre de chercheurs à pouvoir commencer à interpeller le ministère de la Santé, le ministère du Travail. Donc on avait l'impression quand même qu'il se passait quelque chose depuis 68, quoi, en gros. Moi, de mon côté, je me mets à travailler sur les raisons pour lesquelles les cancers, dont les cancers liés à l'amiante, sont si peu connus et reconnus. Et là, c'est tout le discours dominant, cancer égale tabac, enfin, vous le connaissez aussi bien que moi. Et mon travail de sociologue va consister à travailler sur les obstacles à la reconnaissance des maladies professionnelles quand on est face à des polluants connus, mais aussi travailler sur où sont ces cancérogènes, où sont ces produits toxiques dans l'organisation du travail. Et c'est ce qui m'a amené à travailler pendant 30 ans sur les problèmes de sous-traitance, ce que j'appelle la sous-traitance des risques, parce que le passage en sous-traitance de nombreuses activités a coïncidé avec la volonté des industriels de se débarrasser du problème de la gestion des risques et de faire en sorte que les travailleurs exposés soient des travailleurs inorganisés, ayant peu accès à des CHSCT, là je vais très vite, on pourrait y revenir, mais la sous-traitance a eu pour fonction de désorganiser complètement la prise en charge de la santé au travail, et une grande partie de mes travaux porte là-dessus. Tout ça, nous l'avons vécu entre, je dirais, 1980 et maintenant. Et lorsque j'ai commencé à écrire La science asservie, en lisant des collègues chercheurs non alignés, on va dire, je me suis rendu compte à quel point deux enjeux de la recherche sont extrêmement importants. Et importants non pas du point de vue de l'intérieur de la recherche, mais du point de vue de la production de connaissances sur ces problèmes qui sont des problèmes de société. La première chose, c'est que au fil des années, en apprenant tout ce que nous apprenions sur le fonctionnement de la science, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une remise en cause d'un principe fondamental de l'activité scientifique, qui est le libre-échange du savoir. Les industriels font en sorte de faire disparaître les preuves, ce que j'appelle l'effacement des traces, de multiples manières. On pourra y revenir sur des exemples. En fait, rien que pour l'amiante, avant les années 80, il n'y avait pas une seule étude portant sur les maladies liées à l'amiante en France. Il était donc très facile aux industriels de dire « mais en France, l'amiante ne fait mal à personne ». Et ce raisonnement, on le retrouve encore aujourd'hui en Inde, au Brésil, dans les pays qui n'ont pas interdit l'amiante. Le deuxième enjeu majeur de la recherche en santé publique, c'est une biologiste qui a été la première à alerter sur les pesticides. Rachel Carson, en 1962, a publié un ouvrage qui s'appelle « Le printemps silencieux ». Donc, il a été publié en anglais, mais il a été traduit en français, et je vous le recommande. C'est-à-dire que dès les années 60, elle alertait sur les principales classes de pesticides en montrant comment ça comportait des menaces absolument terribles par rapport à la vie humaine. Et elle dit ceci, « L'obligation de subir nous donne le droit de savoir. » L'obligation de subir nous donne le droit de savoir. C'est-à-dire que contre l'idée que seuls les experts ont le savoir pour lutter contre les problèmes de risque industriel, non. Il faut que le savoir soit partagé et très très largement partagé. Parce que seules les luttes peuvent permettre d'obtenir ce qu'on a obtenu avec le mouvement des victimes de l'amiante, mais beaucoup plus largement, le mouvement des travailleurs exposés à l'amiante partout en France. Quand ils ont pris conscience, et ça c'est des collectifs dans l'industrie de l'amiante, dans les chantiers navals, à la SNCF, dans la fonction publique, des collectifs se sont rendus compte qu'il fallait s'approprier cette connaissance et lutter pour que, enfin, on soit débarrassé de l'amiante. On n'en est pas complètement débarrassé, on pourra en reparler. Le droit de savoir. Le droit de savoir, et c'est, je dirais, ce qui est au cœur des préoccupations de la publication du deuxième bouquin, Les risques du travail. Donc, c'est un livre qui est en fait littéralement une réédition, mais en pratique, un livre nouveau par rapport à celui qui avait été publié en 1985, donc il y a 30 ans. Et je dirais que l'objectif est le même. C'est mettre à disposition des outils de connaissance pour les luttes au niveau des travailleurs confrontés à des risques, et quels que soient ces risques. Donc, le livre de 85 a été produit dans une période où il y avait manifestement très peu d'informations qui étaient données sur les risques du travail, que ce soit les risques physiques, les risques chimiques, les risques psychologiques et les risques que j'appelle organisationnels, c'est-à-dire comment est-ce que avec les transformations de l'organisation du travail, on met en péril la santé des travailleurs. Le livre de 2015, il part d'une situation un peu différente. Il y a beaucoup d'informations, on peut aller sur Internet, cliquer sur le paraquat, un pesticide, sur les perturbateurs endocriniens, et vous allez avoir toute une littérature. Le gros problème, c'est de faire le tri. Parce que les industriels n'ont pas attendu, évidemment, pour se servir d'Internet, pour distiller des mensonges. Et quand je dis des mensonges, je pèse mes mots. Vous prenez ceux qui traitent de la toxicité, du risque nucléaire et de la radioactivité. Qu'est-ce qu'écrivent les industriels et leurs experts ? Ils écrivent que la radioactivité n'est dangereuse qu'à forte dose. Plus de 100 millisieverts année. Je vous passe les détails sur la mesure. C'est faux. C'est un mensonge. Ils écrivent que Tchernobyl, ça a été moins de 4000 morts. C'est faux. Ce sont des mensonges. Donc, l'objectif du bouquin « Les risques du travail », ce n'est pas de donner simplement de l'information, c'est de développer un outil critique et pratique pour organiser les luttes. Et là, je voudrais prendre un exemple qui porte sur la radioactivité, mais qui n'est pas dans le nucléaire. L'exemple d'une lutte dans une entreprise dont vous entendez parler, non pas sur les problèmes de cancer, mais sur les problèmes de suicide. C'est France Télécom, Orange aujourd'hui. France Télécom, en 2008, nous sommes interpellés, Henri et moi, par part, le secrétaire du CHSCT de l'établissement en Auvergne, qui est un établissement où il y a des unités d'intervention sur les lignes. Et ce secrétaire de CHSCT et d'autres collègues de la CGT sont, et de Sud d'ailleurs, il y a les deux syndicats, ils sont inquiets parce que il y a des cancers de façon très impressionnante. Un des établissements où il reste plus que 6 salariés, sur les 6 salariés actifs, 5 sont atteints ou décédés de cancer. Ils viennent nous trouver en nous disant on a ce problème et on ne veut pas que se renouvelle ce qui s'est déjà passé dans d'autres établissements. C'est-à-dire que c'est remonté à la direction générale de France Télécom qui a fait faire une enquête épidémiologique. Et cette enquête épidémiologique qui portait sur la mortalité n'a non seulement rien prouvé, mais ils ont dit que les agents de France Télécom mouraient moins que les autres. Donc, nous, on voudrait qu'il y ait autre chose. Et puis, avec Henri, on leur dit, évidemment, il faut faire autre chose. On va quand même regarder l'enquête qui a été faite. Et l'enquête qui a été faite, au lieu de porter sur des ateliers ou des fonctions dont on savait que ces ateliers ou ces fonctions étaient exposés à des cancérogènes, ils sont partis vers une étude qui a noyé les exposés à l'amiante, au rayonnement ionisant, et je vais y revenir, et autres polluants, dans l'ensemble des agents France Télécom, que ce soit ceux qui étaient dans les bureaux, avec le téléphone, dans l'administration, etc. Donc, évidemment, quand on noie une population exposée dans une population non exposée, on ne montre rien. Et d'un autre côté, nous étions absolument en désaccord avec nos collègues sur le fait qu'on n'a pas approuvé pour la population de France Télécom que l'amiante, les rayonnements ionisants et des produits chimiques donnent le cancer. Le problème, il n'est pas là. Il est de retrouver les métiers exposés aux cancérogènes, d'ouvrir le droit à la réparation pour ceux qui malheureusement sont atteints et surtout organiser la prévention. Donc qu'est-ce que nous avons fait en lien? C'est en fait les syndicalistes au niveau du CHSCT qui ont demandé une expertise CHSCT. Bon, ça n'a pas été tout simple. Hein. On pourra discuter des difficultés qui se sont présentées. Et dans cette expertise CHSCT, moi, j'ai personnellement participé pour la partie qui consistait à reconstituer les parcours professionnels de ceux qui étaient malades, à faire lire ces parcours par des gens qui connaissaient bien le travail à France Télécom, et donc à identifier à partir de là les différents agents toxiques auxquels les agents de France Télécom étaient exposés. Très rapidement, d'ailleurs, on est tombé sur plusieurs risques. Il y a au moins 5 ou 6 cancérogènes différents, notamment dans le travail d'agents de ligne, mais 2 risques majeurs en particulier, l'amiante et les rayonnements ionisants. Et les rayonnements ionisants, comment ? Parce que sur les lignes de France Télécom ont été installés avant 1978 des petits dispositifs qu'on appelle des parafoudres ou des parasurtenseurs qui empêchent les variations de tension, qui sont évidemment protecteurs contre la foudre. Et ces dispositifs contiennent des petites sources radioactives, notamment du radium, de l'américium, enfin une série de radioéléments. L'introduction de ces sources radioactives, de ces parafoudres radioactifs, a été interdite en 1978. Sauf que il ne s'est rien passé après. Et en 2008-2009, quand les camarades commencent l'expertise CHSCT, qu'est-ce qu'ils trouvent dans un établissement de Moulins? Plusieurs dizaines de milliers de parafoudres en stock qui crachaient évidemment du radium. Et puis, au fil de l'expertise, il y en avait sur les poteaux téléphoniques, il y en avait dans les boîtiers, dans les centraux, voire chez les particuliers. Donc, les conclusions de l'expertise sont, un, il y a des risques, ils sont là, et il faut faire de la prévention, c'est-à-dire il faut organiser une filière, parce que, en fait, ces dispositifs, il fallait tout le temps les changer. Donc, ils les prenaient, parfois ils les mettaient dans la bouche, donc ils se recevaient une bouffée de radium chaque fois qu'ils faisaient ça, ils en avaient dans la poche de poitrine, et deux des cancers qui ont été repérés, c'est des cancers de la lèvre et des cancers du sein chez des hommes. Donc des cancers suffisamment rares en plus pour alerter sur quelque chose qui se passait. Et l'expertise s'est terminée en 2011-2012. Depuis, il y a un travail, il y a une inspectrice du travail qui a fait une mise en demeure, et il y a un travail avec une deuxième expertise CHSCT sur comment enlever ces parafoudres dans des conditions de sécurité et où les stocker. Or, depuis 1978, les lieux de stockage des déchets radioactifs, personne ne s'était préoccupé de savoir où stocker ce qui peut être considéré comme des déchets radioactifs. Donc, cet exemple-là vous montre un petit peu comment on peut se saisir de connaissances qui existent dans l'espace scientifique, dans l'espace public, mais aussi, je dirais que ce qui est très, très important, c'est la manière dont ces délégués CHSCT sont devenus ce que j'appelle des experts citoyens. Pas seulement des experts ouvriers par rapport à leur entreprise, mais ils en savent beaucoup plus maintenant sur la radioactivité que beaucoup des experts qui se disent spécialistes et qui en réalité n'ont jamais été confrontés à une situation concrète comme celle-là. Alors, on va discuter, vous allez poser toutes les questions que vous voulez. Je voudrais terminer sur qu'est-ce qui a fait les ingrédients de cette lutte et de cette lutte qui continue, c'est-à-dire que ce n'est pas fini. Ils ont réussi au niveau de l'Auvergne à mettre en place des procédures d'enlèvement. Maintenant, la deuxième expertise les résultats viennent d'être rendus. On est en 2015. Tout ça a commencé en 2008. Mais pour l'instant, il reste plein de parafoudres partout en France. Et donc, l'objectif de Franck et Yves, qui sont les deux militants qui se battent là-dessus depuis 2008 et même probablement avant, c'est de faire en sorte que, au niveau national, la direction de France Télécom soit contrainte de mettre en place un dispositif qui protège d'abord les travailleurs de France Télécom. Alors, évidemment, la parade de France Télécom, ça a été de sous-traiter le travail d'agent de ligne. Donc maintenant, le risque est passé chez les sous-traitants. Mais Yves et Franck, là-dessus, sont tout à fait lucides et ne veulent pas que le risque soit tout simplement sous-traité. Et donc on attend une date de CNHSCT au cours duquel devrait se discuter une procédure nationale pour la mise en place de l'enlèvement de ces parafoudres, ce qui aurait dû être fait depuis près de 40 ans. Comment est-ce que ils ont travaillé? Comment est-ce que dans l'ensemble des luttes, non seulement qui sont dans le bouquin La science asservie, mais dans les risques du travail, qui comportent beaucoup d'exemples de lutte, justement, et pas seulement du savoir mis à disposition. Je crois qu'il y a quatre acteurs qui sont importants et les alliances qui doivent s'établir entre ces quatre acteurs pour qu'on arrive à faire bouger les lignes par rapport aux risques toxiques, par rapport aux risques du travail. Parce que ce soit sur le plan de l'organisation du travail, on le voit bien avec le problème des suicides dans la même entreprise d'ailleurs, c'est parce qu'une inspectrice du travail a eu le courage d'aller jusqu'à faire un PV contre la direction de France Télécom qu'il y a maintenant un procès pénal contre Denis Lombard et les principaux cadres qui ont organisé la désorganisation du travail jusqu'à pousser les travailleurs de France Télécom au suicide. Les quatre acteurs, c'est qui? C'est d'abord le mouvement social, le mouvement ouvrier, mouvement citoyen, par rapport à un problème qui inquiète, par rapport à une organisation du travail délétère, par rapport à des symptômes, même des symptômes qui, au départ, peuvent être considérés comme mineurs. À partir du moment où il y a une inquiétude, il faut qu'il y ait un travail collectif. Aucun problème de santé n'est un problème individuel. Ce sont des problèmes collectifs. Donc, mouvement ouvrier, mouvement citoyen. Premier acteur. Deuxième acteur, il faut aller rechercher les connaissances acquises sur les problèmes, que ce soit sur un problème, par exemple, de friche industrielle, sur un problème... là, actuellement, il y a une grosse inquiétude qui monte sur tout ce qui est champ électromagnétique, sur l'hypersensibilité chimique. Je pense à une coopérative ouvrière en Bretagne confrontée à des problèmes de pesticides. Et en fait, il faut aller à la recherche des connaissances et trouver des professionnels de la santé et des scientifiques indépendants du pouvoir industriel, voire du pouvoir politique et de l'État. Parce que, alors, pas indépendant de l'État dans le sens où moi je revendique complètement d'être chercheur public n'ayant été financé que par des fonds publics. Pour moi, la recherche indépendante, elle doit être assumée par l'État, mais indépendamment de ceux qui sont en conflit d'intérêts parce qu'ils sont jugés partis, puisque très souvent, ça remet en cause des intérêts particuliers, scientifiques et professionnels. Des juristes, parce que actuellement, compte tenu de la difficulté de construire des rapports de force, souvent, il faut s'appuyer sur la possibilité d'engager une faute inexcusable de l'employeur ou des fautes inexcusables de l'employeur, c'est encore mieux quand il y en a plusieurs, engager des procédures pénales pour mise en danger de la vie d'autrui. Donc les juristes, les avocats, et puis évidemment les juges, les magistrats, doivent être également partie prenante de ces luttes et de l'alliance nécessaire. Alors c'est des alliances avec les avocats, avec des avocats qui sont d'accord pour soutenir ces luttes et qui fournissent un travail. Vous pouvez voir dans le bouquin Les risques du travail, deux témoignages de juristes. L'un, il y en a d'autres, mais je pense en particulier, l'un c'est Jean-Paul Tessonnière, qui est l'avocat qui a obtenu les principales avancées sur le plan de l'amiante, et puis un procureur, le procureur Raphaël Guariniello de Turin. Les procureurs en Italie sont beaucoup plus indépendants du pouvoir politique en France, donc il a obtenu également des condamnations contre des industriels que jusqu'à présent nous n'avons pas obtenu en France. Et puis quatrième acteur, ce sont les journalistes d'investigation, c'est-à-dire ces journalistes qui nous aident à briser l'invisibilité des cancers professionnels, des suicides liés au travail, des risques psychosociaux, des troubles musculosquelettiques qu'on appelle ailleurs les lésions pour effort répétitif sous forte contrainte de temps, de tout cet ensemble de ce que nous pouvons appeler les risques du travail. Alors que tous, nous sommes convaincus qu'il n'est pas acceptable de perdre sa vie à la gagner. Voilà.
On va demander à la séance s'il y a des questions. Et puis...
Bon, ben voilà. Est-ce qu'il y a maintenant des questions à poser à Anita Bomoni? N'hésitez pas à poser des questions ou à intervenir, poser un problème. Oui, je vois une main se lever là-bas.
Oui, bonjour. Alors, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais est-ce que la médecine du travail, c'est son rôle justement de repérer ces choses-là? Est-ce qu'ils allaient voir, j'imaginerais, le médecin du travail, les employés qui ont eu le cancer et qui sont morts après? Elle n'a pas fait de lien entre le fait... voilà.
Alors, vous avez parlé avec Alain Carré du rôle de la médecine du travail. Bien sûr, le médecin du travail a un rôle à jouer. Je dirais que dans la situation dans laquelle se sont trouvés ces deux camarades, ils avaient un médecin du travail qui était extrêmement frileux, comme le sont d'ailleurs la plupart des médecins du travail, qui n'ont pas réfléchi suffisamment à ces questions-là. C'est-à-dire que les médecins du travail, dans leur grande majorité, sont complètement prisonniers de cette logique du doute. C'est-à-dire que, en fait, des risques toxiques comme la radioactivité, les effets aigus sont connus et là, il n'y a pas de doute possible. Une brûlure par irradiation, ça se voit tout de suite ou ça se voit dans les semaines qui suivent. Un cancer lié à une exposition à la radioactivité à faible dose peut mettre 10 ans, 20 ans, 30 ans avant de se déclarer. Et lorsqu'il se déclare, il sera très difficile de savoir, de pouvoir l'attribuer à ça ou ça. Alors, juste une précision. Le cancer, c'est pas une cause, un effet, ou même plusieurs causes, un effet. C'est pas la tuberculose avec un bacille et puis une maladie. Le cancer, c'est une double histoire, l'histoire de la rencontre entre l'organisme et des cancérogènes, des produits toxiques qui agissent sur la cellule jusqu'à provoquer un processus de cancérisation. Et en fait, vous avez de multiples cancérogènes qui vont donner le même type de cancer. Et la deuxième histoire, c'est la manière dont votre organisme réagit à l'agression. Et là, il y a une variabilité très importante. Et personne ne peut dire... Alors, quand un médecin vous dit c'est un cancer de l'amiante ou c'est un cancer du tabac, c'est faux. On ne peut pas dire, on ne peut pas savoir, parce qu'il n'y a pas de différence du point de vue biologique. Et le plus probable, c'est que cancer et tabac ont joué un rôle par rapport à ça. Donc, le médecin du travail à qui a bulle pour point un agent atteint de cancer dit, voilà, qu'est-ce qui, dans mon travail... à provoquer ça. Le médecin du travail, la plupart du temps, répond, dit, je sais pas. Et c'est pas faux. Sauf que ce qu'il aurait dû dire et qu'il n'a pas dit, ce médecin du travail, c'est, vous avez été exposé à l'amiante, les rayonnements ionisants, du benzène, etc. Et donc, vous, légitimement, vous pouvez demander la reconnaissance en maladie professionnelle. Pour l'instant, alors, il y a une association qui s'est formée, des agents de France Télécom qui sont alors victimes de cancer et demandent la reconnaissance en maladie professionnelle. Ils ont obtenu une première reconnaissance pour un cancer du sein chez une femme qui était agent de ligne et qui faisait ce travail sur les parafoods, mais seulement après l'expertise CHSCT, pas avant. Et le médecin du travail de l'établissement où elle travaillait disait ça n'a rien à voir avec le travail. Donc là aussi, le médecin du travail est un acteur important qu'il faut, comme disait Alain Carré tout à l'heure, qu'il faut provoquer, mais provoquer en sachant qu'on ne va pas lui demander ce qu'il ne peut pas dire. Je ne peux pas vous dire si ce cancer-là, c'est le cancer de l'amiante ou le cancer du tabac. Mais son rôle, ce n'est pas de vous dire que c'est le cancer du tabac. Son rôle, c'est de dire, est-ce que dans le travail, il y a des risques professionnels ? Et c'est là où il y a une carence terrible de très nombreux médecins du travail en France qui, face à une question comme celle-là, au lieu d'avoir le courage d'assumer qu'il y a effectivement exposition à des produits chimiques, enfin, des fibres, etc., vont s'abriter derrière le doute épidémiologique en disant, on ne peut pas vous le dire. Et ça continue.
Oui, c'est par rapport à la loi Macron, donc, hein, par rapport, ça, vu de l'extérieur, c'est très compliqué tout ça, pour dénoncer justement ce qui se passe. C'est-à-dire, quand on est dans l'entreprise, quand on est à l'extérieur de l'entreprise, où on en est justement, puisque à un moment donné, on avait dit qu'il y avait eu des choses qui avaient été dites dans la loi Macron, dans le premier projet, et maintenant, on en est où? Est-ce qu'on ne risque pas d'être poursuivi si on dénonce un certain nombre de choses dans l'entreprise ou de l'extérieur de l'entreprise?
Alors, la principale menace de la loi Macron et de la loi sur le dialogue social, c'est la remise en cause du CHSCT. C'est-à-dire à la fois sur le plan, par exemple, l'expertise dont je vous ai parlé, elle n'aurait pas eu lieu si les agents France Télécom avaient été obligés de demander au CNHSCT de faire cette expertise. Or, dans la loi Macron, ce qui est... alors, je ne sais pas où ça en est là aujourd'hui, mais ce qui était prévu par la loi Macron, c'est que on ne pourrait plus avoir le droit à l'expertise au niveau d'un établissement. Il faudrait que ce soit au niveau de l'entreprise globalement. Et ça, c'est catastrophique parce que le CHSCT a obédience au niveau de l'établissement, et c'est là où les choses se passent. Au niveau du CNHSCT, il ne se passe plus rien. Et c'est là où la pression de la direction sur les organisations syndicales est la plus forte pour faire peser un chantage à l'emploi, etc. Donc, de ce point de vue-là, la loi Macron est très inquiétante, liée en plus au fait que, par exemple, sur l'histoire du compte pénibilité, je ne sais plus si c'est dans la loi Macron ou dans le... dans la fameuse, le fameux choc de simplification, comme ils disent, qui est une expression que je déteste parce que simplification, c'est destruction du code du travail. Alors qu'ils l'appellent par son nom, c'est pas la peine de nous raconter des salades. Alors la simplification pour la pénibilité, vous savez, il y a un compte pénibilité où en principe, vous allez pouvoir partir plus tôt en retraite si vous arrivez à comptabiliser un certain nombre de points. Les risques toxiques en faisaient partie. Il était déjà question, quand la loi sur le compte pénibilité a été adoptée, enfin c'était dans le cadre des restructurations de la retraite, il était question que ce ne soit adopté pour les risques toxiques qu'en 2016. Et là, avec la loi Macron, ça a été supprimé carrément du compte pénibilité, c'est-à-dire que quelqu'un qui a été exposé aux produits toxiques ne peut pas faire valoir le fait qu'il a été exposé à des produits toxiques pour obtenir, si tant est qu'on puisse l'obtenir, un départ anticipé comme l'ont obtenu les travailleurs de l'amiante.
En fait, c'est pour apporter une précision. Là, quand vous parlez d'amiante, l'amiante, ça donne un type de cancer qui quasiment n'arrive jamais s'il n'y a pas eu d'exposition à l'amiante. Donc, c'est beaucoup plus facile dans ce cas-là. Beaucoup plus facile. Bah, si, c'est beaucoup plus facile dans ce cas-là de mésothéliome, étant donné la rareté de ce type de cancer quand il n'y a jamais eu d'exposition à l'amiante. Voilà. Sauf que, il se trouve que ceux qui, en plus, fument, c'est comme si ça aggravait les risques de cancer par mésothéliome et décès. Donc, en fait, il peut y avoir une combinaison des deux. Et alors, ce que je me demande par rapport à la femme dont vous parlez qui a eu un cancer du sein, est-ce que c'est un cancer différent des autres types de cancer du sein? Est-ce que c'est un type de cancer rare qu'on trouve jamais dans ce type d'exposition? Et sinon, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une cartographie des parafoudres France entière? On peut savoir s'il y en a dans les rues à côté de chez nous et comment on peut les repérer? Ça ressemble à quoi? Comment nous on peut...
D'accord.
Il y a une pastille colorée dessus ou...
Non, bien sûr. Alors, pour la première question, l'amiante ne donne pas que les mésothéliomes. L'amiante, maintenant, on a... Enfin, le Centre international de recherche sur le cancer reconnaît officiellement le mésothéliome, bien sûr, qui est un cancer des, ce qu'on appelle les séreuses, les enveloppes, l'enveloppe du poumon, la plèvre, l'enveloppe du cœur, le péricarde, l'enveloppe des intestins, le péritoine. Il donne les cancers du poumon, enfin, ils contribuent au cancer du poumon, au cancer du larynx, larynx-pharynx, à des cancers digestifs et au cancer des ovaires. Et c'est sur la liste officielle du CIRC. Alors là, il y a des arrêts de la Cour de cassation concernant le fait que, à partir du moment où il y a une exposition professionnelle à l'amiante ou à d'autres polluants, ça veut dire que le travail a contribué à la survenue du cancer et donc doit être pris en compte dans la reconnaissance en maladie professionnelle. C'est-à-dire que le tabac ne doit plus être considéré comme une entrave à la reconnaissance en maladie professionnelle. Et ça, il faut le savoir parce que, malheureusement, évidemment, les médecins conseils et les médecins de commission régionale de reconnaissance des maladies professionnelles n'en tiennent pas compte. Mais il faut contester une décision qui est de refus sur le motif du tabac. Ça n'est pas un motif reconnu comme légitime par la Cour de cassation. Sur le cancer du sein, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de spécificité d'un cancer lié à tel ou tel polluant. C'est un cancer du sein qui a les mêmes caractéristiques que les autres cancers. Et personne ne peut dire par rapport aux différents types de cancers du sein, il y en a plusieurs types, si ce sont des cancers dits hormonodépendants, simplement ou hormonodépendants et liés à des expositions de type... Maintenant, on a des données tout à fait formelles sur les pesticides, sur les rayonnements ionisants, sur un certain nombre de produits chimiques qui sont en cause dans le cancer du rein. Il y a des études qui ont été faites, notamment au Canada, là-dessus. Et c'est reconnu comme étant des cancers du sein semblables à tous les cancers du sein, sauf que la plupart du temps, le cancer du sein, on n'a pas été recherché les expositions professionnelles. Et concernant toujours le cancer du sein, le CIRC a reconnu le lien entre cancer du sein et travail de nuit en 2010 ou 2011. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, le travail de nuit bloque l'expression d'un certain nombre de systèmes de défense dans l'organisme contre l'agression de cancérogènes. Donc, le Centre international de recherche sur le cancer a décidé de classer le travail de nuit, le travail posté, comme cancérogène. Troisième question sur les parafoudres. Eh bien non, la stratégie de la direction de France Télécom a été d'ignorer le problème. Donc, par la force des choses, ils n'ont fait aucun recensement. Par exemple, sur un poteau télégraphique, vous avez des petits boîtiers qui sont à 2,50 m, 3 m de haut. Et à l'intérieur de ces boîtiers, vous avez une dizaine, une quinzaine, ça dépend de la puissance du fil qui passe. C'est comme des petites ampoules à peu près de cette taille-là et qui contiennent donc une source radioactive. On ne peut pas le voir de l'extérieur. Et en fait, le travail qui a été fait par la commission parafoudre du CHSCT Auvergne pour les retrouver, ça a été de faire un travail très très systématique d'examen, dans les centraux d'abord et puis sur les lignes. Ils en sont aujourd'hui à, je ne sais plus, plusieurs centaines de milliers qu'ils ont retrouvés, qui ont été stockés dans un endroit, parce qu'il n'y avait rien qui était prévu au niveau du stockage, dans un hangar France Télécom, évidemment dans des fûts de déchets radioactifs, c'est-à-dire qu'il y a ensuite des précautions à prendre, évidemment, pour que s'il y a une grande concentration de ces parafoudres quelque part, ça ne soit pas au péril des riverains qui sont proches de ce stockage. Mais malheureusement, je dirais que depuis le déclenchement de l'alerte en 2008, il y a eu de la part de CHSCT une préoccupation constante qui est remontée vers les enfin, vers les autorités, que ce soit du côté de l'Institut de radioprotection publique ou que ce soit du côté de la direction de France Télécom, pour qu'un recensement soit fait et les autorités publiques ou privées, France Télécom, ont été totalement sourdes à cette demande. Impossible de vous le dire. C'est en fonction de la maintenance qui a pu être faite. Non, non, le problème, c'est qu'il faut aller y voir. Parce qu'en plus, les interventions de maintenance étant faites maintenant par des sous-traitants, la plupart du temps, la seule chose qu'on sait, c'est qu'un sous-traitant est intervenu sur une ligne, mais on ne sait pas ce qu'il a trouvé. La direction de France Télécom reconnaissait en 2012 qu'il y avait au minimum 1 million de parafoudres encore sur les lignes. Mais il y en a, ils en ont mis entre 32 et 80 millions. La fourchette est large, hein, mais personne ne peut savoir ce qu'il en est.
Oui, alors moi, ce que je voudrais dire, je trouve que ce qui était intéressant dans l'exposé, c'est qu'effectivement, vous liez la bagarre générale à plusieurs facteurs. Je suis d'accord avec la publicité, la presse, faire un pataquès de toute intervention, les forces militantes, je suis d'accord. Je suis aussi d'accord avec l'analyse pour Jean-Paul Tessonnière, sachant qu'il commence toujours une intervention dans une association en disant mon travail n'est qu'un complément de l'action militante et ce n'est que comme ça qu'on peut obtenir les choses. Mais ce que je veux dire, c'est que le passé plaide pour l'avenir et ce qui a quand même ralenti les problèmes de bagarre dans l'amiante, c'est justement la partie du mouvement syndical qui est réformiste, hein, à savoir les syndicats qui ont trempé, y compris à la collaboration avec le comité national amiante, jusqu'au bout. Certains syndicats se pointaient encore en réunion alors que les patrons ne s'y pointaient plus. Deuxièmement, pour l'avoir vécu, puisque je suis un ancien du chantier naval de la Ciotat, en 77, nous, le livre de Jussieu, on l'avait. Mais on était des pestiférés. Quand on a parlé de la bagarre que menaient les gens de Jussieu, c'était les Mao, c'était les gauchistes, et nous étions des gauchistes. Et donc, on était des infâmes crapules qui voulions fermer la boîte. Et je veux dire quand même que la manière dont toute l'histoire, y compris, puisque c'est quand même c'est le gouvernement socialiste de Guigou, hein, enfin Guigou qui a accédé à la pré-retraite amiante, même ça, c'est entaché d'une saloperie corporatiste sans nom. La première, c'est que c'est à la suite des fermetures de la Normed où se posaient les problèmes des gars de plus de 50 ans et qu'est-ce qu'on en fait jusqu'à 60, qu'il a été trouvé cette espèce de porte de sortie où on incluait les salariés qui avaient été exposés, et d'une manière corporatiste, puisque là aussi on découpait soudeur bord, ok, lui il est exposé, soudeur atelier, non, lui il n'a pas été exposé, bien sûr que c'était faux, et même la suite après qui a été donnée à l'ouverture des autres secteurs, hein, qu'à le réfugiage, ou même les ports et docks, c'est exactement le même problème, ça a souvent été par les syndicalistes, le fait de cacher ou d'accepter des plans sociaux à moindre frais, et ça c'est dégueulasse, hein. Car moi, mon histoire personnelle de militant de lutte ouvrière, c'est quand même que j'ai été peut-être plus années sous-traitant, et effectivement j'aurais pu partir avec les années, si on les compte, à 53 ans ou 52 ans, et je suis parti à 58 parce que justement les syndicalistes dans toutes les boîtes, c'était leur problème, leur truc. On ne peut en aucun cas, ce que j'avais une conclusion à en tirer, c'est qu'on ne peut en aucun cas s'appuyer sur ces organisations réformistes corporatistes, y compris des syndicats, hein, puisque moi j'étais dans la Fédération de la Métallurgie, j'ai joué un rôle assez important là-dessus, et j'ai été l'organisateur de la première réunion intercorporation de la CGT. Un truc fou, c'est-à-dire qu'elle a eu lieu il y a 7-8 ans. Et c'est la première fois que d'un seul coup, des militants de différentes fédérations se réunissaient pour confronter leurs problèmes de l'amiante et découvrir que chacun dans leur coin, ils avaient essayé de retracer un chemin, un sillon. Alors je dis qu'il faut militer à plusieurs niveaux. Et les associations des victimes de l'amiante aujourd'hui sont malheureusement aussi un peu dans ce travers, puisque ce sont souvent des anciens militants des syndicats qui les mènent, et il faut les casser, ces corporatismes. Hein. Il faut effectivement, parce que, sans être critique, mais les gars de France Télécom qui réagit, c'est parce qu'il y avait un certain nombre de décès. Et c'est souvent grâce au malheur qu'on réagit, qu'on forme une association. Et je pense que la prévention, c'est maintenant, il faut transmettre. Hein. J'ai été malheureusement aussi confronté au rayon ionisant, je passe sur tout, mais l'un des une des caractéristiques essentielles de la bourgeoisie de ce pays comme des autres, c'est qu'il y a une obligation de relever les doses que les gens qui travaillent dans les rayons ionisants ont par jour, par mois. Et là, il n'y a que moins de 10 ans que c'est officiellement centralisé. Hein. Et je peux vous dire que la plupart des boîtes n'ont pas l'enregistreur automatique journalier pour savoir combien les gens ont été exposés. Comme tu le disais si bien, ce n'est pas la dose maximum qui est la plus dangereuse des fois, parce que la brûlure est peut-être l'effet peu passé. Mais la quantité de doses accumulées à faible, mais plus ou moins constante, qui pourrait éventuellement agresser et contenir. Et ça, c'est valable pour tous les ensembles, les agents pathogènes, cancérigènes. Et je terminerai pour dire que la bagarre ne peut être que dans ce capitalisme pourri, ne doit pas se limiter à la seule connaissance d'une boîte. Il faut toujours essayer d'étendre la connaissance. Et effectivement, sachons quand même que les journalistes sont des personnes humaines, et je peux dire au moins à ce niveau-là, c'est quand on parle de l'amiante, quand on parle de ces choses-là, c'est un os qu'ils aiment bien ronger, et il faut s'en servir, effectivement, parce que ils ont la décence quand même d'être touchés par ces problèmes-là, parce que sinon, c'est une chape de plomb. Hein. Moi, quand j'ai ferrograin de ma boîte, j'avais des gars qui planquaient le reste de l'amiante, qui l'enterrait, qui l'enlevait pour que les experts qui passaient n'en trouvent pas. Hein, et voilà, bon, c'est sans fin, on pourrait parler des heures, mais je pense que la leçon, c'est on peut compter sur nos propres forces, oui, effectivement. Si on s'en remet à des soi-disant gars qui vous disent « je vais faire pour toi », on est mort. On est mort.
Ah oui, d'accord.
Voilà, il faut vous concluer. Non, il faut vous et après, non, attendez.
Mais après
vous allez pouvoir discuter là avec.
D'accord.
Vous,
voilà. On est obligé de conclure, mais moi, je veux bien rester par là pour pouvoir répondre aux questions auxquelles j'ai pas pu répondre.
Si, vous allez pouvoir continuer à discuter avec Adi.
Alors, sur cette histoire de statistiques, les maladies professionnelles sont très, très peu, très mal reconnues. Et les statistiques elles-mêmes sont très mal faites. Je ne vais pas détailler ici. Je voudrais seulement donner des chiffres. En 80, nous avions 150 000 nouveaux cas de cancer par an. En 2010, nous en avons 355 000 nouveaux cas par an. Là-dessus, il y a moins de 0,5% des cas qui sont reconnus en maladie professionnelle. Non, mais c'est lié à des... Enfin, chaque cancer, on pourrait lire quel est le militant, que ce soit un médecin, que ce soit un syndicaliste, que ce soit un militant associatif, qui a permis que... Il arrive jusqu'à la reconnaissance. Et c'est bien ça le drame.
Bon, on remercie beaucoup Anita Bovani d'être venue ici. Voilà, vous pouvez continuer à discuter avec elle en lisant ses livres. Ça, je vous le conseille fortement. Alors, d'abord, La science a servi, qui est passionnant. Et Les risques du travail, qui là sont. C'est un travail collectif où il y a beaucoup de contributions. Il y en a des meilleures que d'autres ou des moins bonnes que d'autres. Mais en tout cas, c'est vrai, c'est un peu comme un dictionnaire et je crois que c'est important d'avoir ça aussi. Voilà. Merci à Monique, à Annie Thébon-Monique.